en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pauvreté et médecine, tel était le thème de la rentrée solennelle de l'Académie nationale de médecine en décembre 2008. Canal Académie retransmet l'intervention de Marc Gentilini, président 2008 de l'Académie de médecine, ancien président de la Croix-Rouge, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. La communication de Marc Gentilini se poursuit par celle de Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008, sur ses inquiétudes quant au financement de la recherche en période de crise économique. Tout de suite, Marc Gentilini.
En février 1997, j'avais été invité lors des 15e journées médicales et pharmaceutiques de Dakar, a prononcé une allocution. J'étais flatté et je l'avais axé sur la pauvreté et sa relation à la santé. La pauvreté, première des maladies. À l'époque, vers la fin du deuxième millénaire, l'ambiance était euphorique. La lutte contre la pauvreté, la précarité, la promiscuité paraissait presque à la mode. La pauvreté était jugée maîtrisable. Profitant d'un environnement économique favorable, d'une croissance modérée, d'une inflation sans contrôle et de l'afflux de capitaux sur le marché des actions Wall Street, déjà, avait franchi quelques jours plus tôt un seuil historique, avec un Dow Jones à qui l'on promettait le plus bel avenir et l'on ajoutait qu'à moins que ne survienne un krach comme celui de 1929, je m'en souviens, c'est l'année de ma naissance, causé par l'imprévoyance générale du danger que comportait une prospérité bientôt sans consommateurs, tout devait bien se passer. Et les éditorialistes décrivaient un syndrome nouveau sous le nom de fièvre de Wall Street. Certains redoutaient cependant l'effondrement vertigineux des cours des fameux 24 et 25 octobre 1929, le jeudi et le vendredi noir, où Wall Street sombrait dans le coma, entraînant la mort des banques américaines qui ne purent faire face aux demandes de retrait massif des épargnants. Stocks invendus, destruction massive des matières premières et agricoles pour maintenir les cours, le chômage, la misère, la précarité, l'exclusion s'en suivirent et l'on incita progressivement à un retour de la pauvreté. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait cru que le progrès humain, social, technologique permettrait d'éradiquer la pauvreté, au moins de la réduire ou de la masquer. En réalité, elle sévissait partout, mais pas chez nous. Du moins le croyait-on. Or, si un concept a réussi un retour spectaculaire depuis la décennie 80, les 20 dernières années du XXe siècle, c'est bien celui de la pauvreté. Nous avons progressivement redécouvert la misère, celle qui tue par la faim, par le froid, par la solitude, par les maladies banales, aujourd'hui pourtant maîtrisables. La pauvreté est apparue alors comme une nouveauté, comme si elle avait réellement disparu et les médias ont traité des nouveaux pauvres et de la nouvelle pauvreté. La Banque mondiale elle-même, qui avait jusque-là toujours évoqué une vision positive de l'économie et du développement, a intitulé son rapport annuel en 1990 « Pauvreté » et en 2001 « Combattre la pauvreté ». Oui, la Banque mondiale s'apercevait tardivement mais sans gêne que contrairement à toutes ses prévisions, non seulement la misère subsistait, mais qu'elle progressait avec bien entendu des variantes selon les pays et selon les régions. Mais tous étaient atteints, même les pays les plus riches. Ainsi, rappelait-on, à l'époque, qu'aux États-Unis, plus de 16% de ses habitants vivaient au-dessous du seuil de pauvreté et, disait-on, 40 millions d'Américains, au moins, étaient sans couverture sociale. Thème repris en 2008 lors de la surprenante campagne électorale américaine que nous venons de vivre. Les grandes villes à l'époque, comme New York, étaient au bord de la faillite, confrontées à d'énormes problèmes sociaux, à la drogue, au sida, à la tuberculose qui se propageait parmi les millions de sans-abri. municipalités en faillite, contraintes de faire des coupes sombres dans les budgets sociaux et privant ainsi de planches de salut ceux qui en avaient le plus besoin. Les adultes étaient concernés, mais aussi les enfants, nés dans des familles déstructurées où le préadolescent, dealer de drogue, est celui qui apporte au foyer l'argent qu'un père inscrit à l'aide publique ne peut produire. Situation proche de celle que nous connaissons aujourd'hui dans nos quartiers sensibles et au-delà si souvent relatée, qu'elles occultent les aspects positifs de ces zones urbaines et périurbaines et qu'elles offrent souvent. Pourtant, dans le même temps, les richesses du monde augmentent. La somme des revenus de 2,5 millions des plus fortunés est équivalente à celle des 100 millions les plus pauvres. Quelques centaines de milliardaires au monde se partagent 45% des richesses, soit les revenus de 2,5 milliards d'hommes. Ce décalage entre la création de richesses, d'une part, et l'absence de redistribution, d'autre part, avec le développement de la misère, est particulièrement inquiétant, et c'est un phénomène qui a toujours existé, certes, mais qui ne fait que s'amplifier et qui existe au nord comme au sud. Ce qui est dramatique, c'est que dans nos pays, l'accroissement de la richesse s'accompagne désormais de développement de la misère. Et une véritable prise de conscience s'était imposée à l'époque aux États-Unis avec un politologue, Kevin Phillips, qui, très apprécié des cercles politiques de Washington, son appartenance au Parti républicain le rendait a priori insoupçonnable de déviationnisme à l'égard des politiques conduites par Ronald Reagan et par George Bush. Pourtant, au printemps 90, il publia un constat brutal en affirmant que, aux États-Unis et dans l'ensemble des pays riches, les pauvres se sont appauvris et les plus riches considérablement enrichis. Et il décrit 5 couches de la société. Une première couche qui est le cinquième supérieur, l'élite, qui n'appartient plus à une nation, mais qui vit à l'heure internationale. Ce sont ces membres qui se sont considérablement enrichis par la bourse et la spéculation financière. Ils sont hors la loi des nations. Il n'existe pas de loi ni de règlements internationaux capables de réguler les opérations boursières et les coûts financiers qui les enrichissent. Et l'exemple qui défraie la chronique actuellement de Bernard Madoff ne fait que confirmer cette analyse. Le cinquième inférieur, en revanche, est celui qui a considérablement augmenté et qui, au cours de la dernière décennie, c'est celui du chômage, de l'exclusion, de la misère et de la faim. Ceux-là n'ont aucune chance. Ce n'est pas un mauvais passage temporaire. Non, c'est pour eux, pour leur famille, pour leur génération, l'espoir de s'en sortir n'existe pratiquement pas. Les sociétés ont appris à se passer d'eux. Elles n'ont plus besoin de leur travail ni de leur pouvoir d'achat. Ce sont des exclus irréversibles. On les évite et on évite leur quartier. On prie pour que les flambées de désespoir et de révolte restent rares, même si elles sont fortement probables. Et parmi les 3/5 du milieu, le tiers supérieur lorgne vers les richesses des élites. Le tiers inférieur fait tout pour ne pas tomber dans le gouffre. Et au milieu, c'est la frange qui nous concerne directement, je suppose, la plupart d'entre nous. Pour achever ce sombre tableau économique qui conditionne l'état sanitaire du monde et limite les actions de santé publique, la question de la dette du tiers-monde serait très éclairante. Je ne m'y arrêterai pas. Simplement, je voudrais souligner que cette dette se monte à 50 milliards de francs par an. Cette situation a conduit le Fonds monétaire international à mettre en place, on le sait, des politiques de stabilisation complétées par des ajustements structurels qui étaient justifiés pour une large part, mais qui malheureusement n'auraient jamais dû s'appliquer à la santé, non plus à l'éducation. Parallèlement à la détérioration du niveau de vie d'une grande partie de la population, la situation sanitaire globale s'est dégradée. La réduction des salaires a conduit à la démotivation des personnels de santé à tous les niveaux et les a contraints à exercer un deuxième, voire une troisième activité, souvent dans le secteur informel. La pénurie de médicaments, la pénurie de pièces détachées a augmenté le désarroi des personnels de santé qui n'ont plus les moyens d'exercer les activités minimales de soins et de prévention mobile. Et la question qui se pose, et à laquelle je ne peux pas répondre, simplement l'évoquer, qui va nourrir la population qui va venir? Nous sommes 6 milliards et demi actuellement sur la Terre. On prédit beaucoup plus dans quelques temps. 6 milliards et demi d'individus, nous serons, disent les démographes, qui peuvent se tromper, 9 milliards en 2050. Sauf guerre atomique ou cataclysme tellurique mondial. Je regarde les militaires pour la guerre atomique, qui, je l'espère, n'est pas pour demain. Qui va nourrir les hommes? C'est la question que pose l'actuel ministre de l'Agriculture et de la Pêche. La Terre pourra-t-elle nourrir les hommes? Qui va nourrir le monde? C'est le petit livre qu'a publié Michel Barnier pour une nouvelle révolution agricole. Car la population actuelle, avec quelques 2 milliards d'individus atteints par une insuffisance nutritionnelle grave en Afrique et en Asie, va augmenter en nombre, sinon en pourcentage. 6 millions d'enfants, nous dit-on, meurent chaque année de l'insécurité alimentaire. Et cette insécurité alimentaire menace surtout, évidemment, les pays les plus pauvres. Je n'insiste pas sur cet aspect et je voudrais simplement évoquer ce qui, finalement, pourrait être opposé à une situation dramatique. La situation n'est pas brillante et les dernières conséquences de la situation économique internationale vont aggraver la dérive de la situation sanitaire. Je voudrais appeler votre attention sur un monde en transformation, sur un monde qui bouge, sur un monde de réformes, de bouleversements économiques et sociaux dramatiques, de bouleversements démographiques à court terme, de redistribution des cartes. Et si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël à un adolescent, à condition de l'accompagner d'un autre cadeau, achetez-lui cet atlas extraordinaire qui s'appelle l'Atlas du monde réel et qui nous situe le monde tel qu'il est. Des déclarations nombreuses, incantatoires souvent, non suivies d'effets, tant en politique générale qu'en politique sanitaire, ont été apportées. Je voudrais évoquer quelques réponses face à cette situation. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a 6 jours, l'on célébrait les 60 ans de cette déclaration, qui a été signée par 58 États membres le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais de Chaillot. Après un bref préambule, 30 articles suivaient. Rares ou exceptionnels sont les personnes, même chargées de responsabilités publiques, ayant pris connaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je ne ferai pas le test dans cet hémicycle, mais je suis sûr que si je posais des questions, on aurait des surprises. Rassurez-vous, je ne vais pas procéder à cet exercice et je ne vais pas davantage énumérer les 30 articles. Je voudrais seulement en souligner quelques-uns pour que, en même temps, vous pensiez à la correspondance sanitaire qu'ils impliquent. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit à la liberté. Ils ont droit à un travail. Ils ne doivent pas être tenus en esclavage, ni soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et on peut penser à certains camps de regroupement en dehors de la France en particulier. Tous sont égaux devant la loi. Chacun a droit à une personnalité juridique. C'est très important, car beaucoup de gens au monde, c'est un mal très grave pour beaucoup d'habitants de la Terre, qui ne disposent pas de cette reconnaissance élémentaire, qui sont démunis d'état civil et qui ne sont en conséquence rien. Bien sûr, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, exilé, tout sujet présumé innocent. Bon, je passe sur tous ces rappels qui sont extraordinaires, que la lecture réjouit. La lecture nous réjouit parce que c'est une déclaration qui a été écrite en 1948 et qui reste totalement d'actualité. Mais il y a deux articles qui, pour nous, médecins, paraissent particulièrement importants. C'est l'article 25 qui réclame un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Et l'article 26 qui plaide pour le droit à l'éducation qui doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et sans laquelle cette éducation, sans laquelle il n'y a pas d'accès à la santé. Rien n'a été oublié dans la déclaration qui date de 60 ans, à l'exception sans doute, mais la conscience de nos responsabilités dans ce domaine n'était pas encore née, du droit à un environnement décent et respectueux de la personne humaine. Sans doute peut-on y ajouter aussi le droit à l'eau, l'eau, élément fondamental de notre survie. Le 10 décembre de cette année, avec bien d'autres, j'ai été convié à l'Élysée à écouter le discours du président de la République, au cours duquel, avec vigueur et réalisme, il disait son inquiétude, 10 ans après le cinquantenaire, 10 ans après le cinquantenaire, survenu, lui, juste après l'effondrement du mur de Berlin, et qui permettait d'espérer un grand rapprochement entre les peuples. Aujourd'hui, qu'avons-nous ? Est-ce que la situation de l'homme s'est améliorée ? Non. Aujourd'hui, le Darfour au Soudan, le drame du Zimbabwe, avec le choléra, maladie anachronique, qui frappe à nouveau, ajoutant au désespoir des populations. La région convoitée du Kivu, au Congo démocratique, partout la violation la plus élémentaire des droits de l'homme, qui comprennent aussi, bien entendu, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Le crime politique des dictateurs est un meurtre sanitaire. Non, la situation dans le monde ne s'améliore pas en dépit d'efforts non négligeables de beaucoup d'hommes et de femmes engagés chacun dans leur discipline pour que la paix débouche sur un développement durable, pour que le droit à la santé soit satisfait. Ainsi en va-t-il de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La deuxième déclaration que je voudrais rappeler devant vous est la déclaration d'Alma-Ata en 1978. On n'ose pas le faire, mais on fête également cette année son 30e anniversaire. La déclaration d'Alma-Ata, les hommes de santé publique la connaissent bien. En 1978, en URSS, la fameuse déclaration portant la valorisation, la priorité des soins de santé primaire et l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, inscrite dans un contexte politique marxiste, non critique, avait déjà provoqué des doutes sur sa réalisation. Un peu pour tous, plutôt que tout pour quelques-uns, ne pouvait être dans l'optique d'Alma-Ata qu'une déclaration séduisante par la solidarité qu'elle appelait. Hélas, il n'en fut rien. La mise en place des soins de santé primaire s'était révélée beaucoup plus complexe que prévu et plus onéreuse surtout. Les années ont passé, chacun a pris ses distances vis-à-vis de sa déclaration courte, un recto verso. L'an 2000 a été franchi sans que la santé des populations dans le monde se soit réellement améliorée. On n'a plus parlé d'échéance, mais décideurs politiques et bailleurs de fonds ont fait une nouvelle déclaration à l'entrée du troisième millénaire. C'est la déclaration du troisième millénaire. C'est la déclaration du millénaire avec des objectifs du millénaire. Une déclaration qui visait à préciser les objectifs à atteindre au cours de la période qui nous sépare de 2015. Les objectifs du millénaire. Pourquoi des objectifs du millénaire ? Pour le développement. S'inspirant de la déclaration du millénaire des chefs d'État, les pays se sont engagés en l'an 2000 à adopter 8 objectifs pour le développement. Ces objectifs du millénaire pour le développement impliquaient que toutes les nations intensifient leurs efforts et unissent leurs forces afin d'atteindre pour l'an 2015 les 8 objectifs suivants. Réduire l'extrême pauvreté et la faim de moitié, celle dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour et celles souffrant de la faim. Assurer l'éducation pour tous en donnant aux enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à tous les niveaux de l'enseignement. Réduire la mortalité infantile des deux tiers pour les enfants de moins de 5 ans. Améliorer la santé maternelle en réduisant de 3/4 le taux de mortalité infantile. Combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies, dont la tuberculose, en essayant d'inverser la tendance actuelle. En plus de ces 6 objectifs, 2 autres, plus larges, avaient été retenus. Assurer un environnement durable en réduisant en particulier de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès à l'eau potable d'ici 2015. Enfin, mettre en place un partenariat mondial pour le développement en coopération publique-privée et en mettant à la disposition de tous les bienfaits des nouvelles technologies. Mais les 2 conférences récentes de ce mois de décembre, en Pologne et à Bruxelles, ont démontré qu'en situation de crise, ces objectifs seront d'autant moins atteints qu'aucune mesure sensible pour aider les pays pauvres n'y a été décidée. Car on estime à 50 milliards de dollars des États-Unis la somme nécessaire pour atteindre ces OMD en 2015, somme égale à celle détournée par M. Madoff à Wall Street que j'évoquais tout à l'heure. 50 milliards de dollars. Et puis il y a eu d'autres déclarations, celles du G8, du G9, du G20 maintenant, je n'insiste pas, mais je voudrais simplement rappeler ici ce qui vient de paraître. Une revue, une publication ou une déclaration à laquelle je voudrais faire allusion, celle du National Intelligence Council, qui se fait une spécialité de la prévision et qui vient de publier son rapport quadriennal intitulé « Tendance globale pour 2025, la transformation du monde, un monde transformé ». 2025, il est vrai, mes chers confrères, est un horizon qui nous concerne relativement peu, compte tenu de notre moyenne d'âge. Dans quelques 15 ans, il y aura, de gré ou de force, un renouvellement de cet hémicycle et sa conception du monde sera sans doute différente. Mais les prévisions ont de quoi inquiéter pour nos enfants et nos petits-enfants, ceux au moins qui ne se contenteraient pas d'un regard strictement européen, pire hexagonal, voire régional, départemental ou cantonal. Tendance globale en 2025, un monde transformé. Sous nos yeux, que sera notre monde en 2025 ? Les 100 pages du rapport nous disent les évolutions étonnantes qui nous attendent. Transfert de richesses et de pouvoir économique de l'Ouest vers l'Est, sans précédent dans l'histoire moderne du monde. Ce phénomène s'explique par 2 causes principales. Les prix du pétrole et du gaz et de beaucoup de matières premières ont favorisé les pays qui les exportent, dont la Russie. Des prix de revient plus bas et des politiques économiques des gouvernements intéressés ont permis de transférer vers l'Asie beaucoup d'industries et de services très lucratifs qui étaient jusqu'ici l'apanage de l'Occident. C'est les conséquences néfastes des délocalisations. Les 4 pays dits BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, auront vers 2040-2050 une production égale à celle du G7 d'aujourd'hui. Mais dès 2025, et pour peu que la tendance actuelle se maintienne, la Chine sera la 2e puissance économique et militaire du monde, le premier importateur de matières premières et le plus gros pollueur de la planète. L'avenir de la Russie reste incertain, tout dépend de son investissement dans le capital humain, mais 3 autres grands pays, tous les 3 musulmans, même, mais non arabes, ont beaucoup plus de pouvoir politique économique attendu, l'Indonésie, l'Iran et même la Turquie. Bien que la demande grandissante des matières premières, dont elle regorge et qu'elle exporte, l'Afrique subsaharienne n'a que de faibles chances de voir l'enrichissement de certains de ses États profiter à la population et contribuer à son progrès. La corruption des gouvernements, le sous-équipement conjugueront les effets pour contrecarrer le progrès. La quasi-totalité, 97% de la croissance démographique mondiale, se fera en Asie, en Afrique et en Amérique latine. L'Europe et le Japon, dans une moindre mesure les États-Unis, verront leur population stagner et vieillir, mais ils conserveront un revenu par habitant très élevé. Tout n'est pas perdu, sans commune mesure avec celui des pays émergents. Quelques pays d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient auront une pyramide démographique explosive par le nombre de jeunes et constitueront un arc d'instabilité. La demande de produits agricoles alimentaires sera de 50% plus élevée qu'aujourd'hui et le problème de l'eau n'aura pas été résolu. Les auteurs de ce rapport sur l'évolution de notre monde pensent donc qu'il va être transformé en moins de 20 ans et qu'il connaîtra pour la première fois depuis longtemps plus de bouleversements que de changements. Réussirons-nous à échapper aux menaces dont on sait qu'elles se profilent à l'horizon ? Pénurie d'énergie, d'eau, de nourriture, prolifération nucléaire et conflits armés, terrorisme et pandémie, nul ne peut le dire. En tout cas, la conclusion de ce rapport est qu'il faut se préparer à un monde sans l'Occident, ce qui serait quand même, sous la plume des rapporteurs, une catastrophe. Messieurs, j'ai essayé de retracer quelques-uns des éléments qui concernent la situation actuelle. Je voudrais vous lire le type de galimatia de la Banque mondiale, de temps en temps des organismes internationaux, dans des situations comme celle que je viens de rappeler. La Banque mondiale, la conclusion du rapport de la Banque mondiale en 2000 était la suivante. On ne comprend pas de prime abord, mais en relisant, on saisit. Pas forcément à la première lecture. Si le monde en développement et la communauté internationale unissent leurs efforts pour mettre des ressources réelles, tant financières que celles qui sont incarnées par les gens et les institutions, leur expérience, leur savoir et leur imagination, au service de cette vision, le XXIe siècle sera une époque de progrès rapide dans le combat pour l'élimination de la pauvreté. Voilà qui est fort bien dit. Et il n'y a rien à ajouter. J'ai cité, au cours de mon propos, l'atlas du monde réel. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, vous conseiller de regarder deux livres. Un livre qui s'appelle « Le livre noir de l'économie mondiale », qui donne un aspect réaliste sur un monde où la culture de l'argent domine la culture de l'esprit, où les contrebandiers, trafiquants, faussaires sont... bien décrit par l'auteur. Et puis, un livre un peu insolent, provocateur par son titre, « Pourquoi êtes-vous pauvre ?» Pourquoi êtes-vous pauvre ? La plupart des hommes qui le sont ne se posent même pas la question. Mesdames et messieurs, nous sommes, mais c'est une banalité, dans un monde un peu en déshérence, et où la société a perdu, on l'a rappelé souvent, ses repères. Nous sommes dans une société de visages souvent sans voix et de voix sans écoute, un monde animal perturbé, une flore menacée, mais il ne faut pas que nous perdions l'espérance. Et quand on regarde, quand on essaie de dresser la bibliographie de la pauvreté, eh bien, on en arrive à la conclusion que rien n'est plus riche que la bibliographie du pauvre. Et que, il faut bien, pour terminer, que je vous cite ce que disaient quelques auteurs de qualité. Qu'est-ce qu'une nation riche ? C'est un pays qui a réussi à cacher ses pauvres. Puis un proverbe chinois, ça arrange tout le monde, et en plus c'est chinois, ça passe bien. Quand les riches s'appauvrissent, les pauvres meurent. Tout est dit. C'est ce que nous allons voir. Et puis, il y a encore ce mot que rappelait un sénateur communiste sur son banc il y a quelque temps, et qui est de Coluche, qu'on peut citer même à l'Académie de médecine. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je vous dirai comment vous en passer. » C'est ça la solution de la pauvreté. Eh bien, la nuit n'est jamais complète. Il y a, disait un poète, toujours un rêve qui veille. Il y a en tout cas urgence de charité. Il y a à se lever contre l'immense cohorte des prudents, contre les gens qui ne font rien, qui regardent et laissent faire. Bien sûr, disait Alain Finkielkraut, il est difficile, quand on prend le parti de l'humanité spoliée, de le faire humblement. Mais je pense que c'est notre devoir de nous pencher sur cette situation et d'imaginer que ces situations conditionnent en permanence la situation sanitaire. Je voudrais conclure avec un clin d'œil à mes amis de la Croix-Rouge qui sont dans cette salle et qui ont répondu à mon invitation et à d'autres. Je voudrais conclure en disant, en rappelant cette citation dont je me suis tant servi quand j'étais en charge, avant que Jean-François Mattei ne prenne le relais de cette première association caritative de notre pays, cette citation d'Albert Einstein, qui est simple, faut bien la mémoriser quand même. Et rien n'est, le monde n'est pas difficile à vivre à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. C'est l'indifférence qui tue le monde qui est le nôtre. Je vous remercie. Je voudrais vous demander, Madame la Ministre, si vous acceptez que Françoise Barré-Sinoussi, du reste, c'est normal, c'est vous qui allez parler la dernière, si Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008, prenne la parole à cette tribune et puis vous interviendrez après.
C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Malgré cet emploi du temps, il est vrai un petit peu chargé, ce marathon que je vis depuis 2 mois aujourd'hui. Je tenais malgré tout à être présent pour revenir un petit peu sur certaines choses que Marc évoquait tout à l'heure. C'est vrai que cette haute distinction qui honore Luc Montagnier aujourd'hui, c'est grâce à nos collègues les cliniciens qui sont venus nous contacter à l'Institut Pasteur, et c'est grâce à l'un des collaborateurs de Marc Gentilini, qui était d'ailleurs à Stockholm à la cérémonie, et j'en étais particulièrement heureuse. Car sans ces observations de nos collègues, les cliniciens, nous, les chercheurs, lorsque nous avons à faire face à une maladie émergente, comme ça a été le cas pour le VIH-SIDA, nous sommes assez démunis. C'est donc une distinction qui récompense, à mon sens, une recherche qui partait réellement du lit du malade, pour passer par la recherche fondamentale avec un seul et unique objectif, un retour vers le lit du malade. Et c'est grâce à un partenariat, à mon sens, tout à fait exemplaire, entre cliniciens, chercheurs venant d'horizons différents, qui ont su réagir très vite, se mobiliser, C'est grâce aussi à une association entre le secteur public et le secteur privé que nous avons pu très vite réagir contre cette épidémie nouvelle, émergente, dont on n'avait pas mesuré, à vrai dire, au départ, l'ampleur. L'ampleur, nous avons commencé à la mesurer lorsque nous avons eu sous les yeux ce qui se passait sur le continent africain. Un continent qui, je le sais, est cher à Marc Gentilini, qui m'est cher à moi aussi. Et c'est là où, je me souviens, en 1985, lorsque, pour la première fois, j'ai eu sous mes yeux la situation de l'Afrique, de la République centrafricaine, pour être tout à fait précise, que j'ai commencé à mesurer l'ampleur de ce que nous avions devant nous et la responsabilité que nous avions tous, une responsabilité, j'ai tendance à appeler de citoyen, d'essayer d'aider à notre petit niveau aussi les pays les plus pauvres touchés par cette épidémie, en faisant pas à pas des progrès pour renforcer les ressources humaines de ce pays et aussi à améliorer pas à pas les infrastructures. Alors c'est vrai que ce VIH-Sida, je pense, a malgré tout contribué en partie à améliorer les choses dans les pays les plus pauvres, qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à faire pour l'accès au traitement qui découle de cette découverte initiale. C'est vrai qu'il y a encore uniquement, j'allais dire, 30% des patients qui ont besoin d'être traités, qui le sont aujourd'hui. C'est vrai que ça serait merveilleux de pouvoir atteindre cet objectif 2010 d'accès universel au traitement pour les patients du monde entier. Mais c'est vrai aussi que face à la crise économique internationale que nous affrontons, nous sommes tous inquiets. Inquiet sur la possibilité justement de ces pays et des patients de ces pays d'accéder aux soins. Et nous sommes inquiets bien sûr sur le respect de l'engagement des pays les plus riches vis-à-vis de l'aide à ces pays pour améliorer les systèmes de santé. Certes, c'est une question d'argent, ce n'est pas une question uniquement d'argent dans ces pays, il y a aussi bien sûr l'amélioration des structures de santé publique dans la globalité. Essayer d'augmenter le nombre des ressources humaines dans ces pays, c'est un gros travail que nous avons devant nous tous. Je dis bien nous tous, car l'expérience, ma petite expérience du VIH-Sida m'a montré combien, lorsque nous mettons tous ensemble, pas à pas, nous pouvons faire améliorer les choses dans les pays les plus pauvres. C'est vrai que cette distinction me permet aujourd'hui d'exprimer certaines choses qui me tiennent à cœur, qui tiennent à cœur aussi toute une communauté scientifique et médicale, mais aussi qui tiennent à cœur les patients eux-mêmes. J'ai eu la chance, en tant que chercheur, non médecin, de rencontrer les malades. Et c'est vrai que cette rencontre avec les malades, pour moi, a été déterminante, tout comme a été déterminante ma visite dans les pays les plus pauvres. Je pense qu'un chercheur ne peut pas rester insensible à l'attente des patients, à l'attente des pays les plus démunis, et qu'il est prêt, lui aussi, à essayer d'être leur porte-parole par rapport à ses attentes. Et en tous les cas, c'est ce que j'avais essayé de faire dans les années qui viennent, me porter la parole des attentes de ces pays à tous les niveaux. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, en vous remerciant, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, de m'avoir invité aujourd'hui dans cette honorable assemblée. après avoir vécu des moments un petit peu féerique, je dois dire, à Stockholm, un petit peu féerique, mais aussi des moments qui ont été émouvants en rappelant beaucoup de souvenirs de 25 années d'aventure avec des hauts et des bas, mais essayons de regarder surtout et de garder en mémoire les hauts pour avancer le plus vite vers demain. Merci.
Vous venez d'entendre Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. Elle s'exprimait à l'Académie nationale de médecine en décembre 2008, au cours de la rentrée solennelle de l'Académie, sur ses inquiétudes quant au financement de la recherche en période actuelle de crise économique. La précédait le professeur Marc Gentilini, membre de l'Académie nationale de médecine, président honoraire de la Croix-Rouge et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il réalisait pour sa part une rétrospective rapide de 1945 à nos jour de l'accroissement des inégalités dans le monde avec la pauvreté facteur de maladie. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez le témoignage de Françoise Barré-Sinoussi sur Ma vie après un prix Nobel, ainsi que les interventions du professeur Marc Gentilini sur le sida et la santé des détenus en France. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.